Chers amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire Ossérie Info Sport sur les ondes de Radio Ossérie Volcan FM. Ossérie Info Sport, au service du développement de la région par le sport, s'est donné pour mission de promouvoir tous les efforts mis en œuvre pour rehausser le niveau de performance dans toutes les disciplines sportives pratiquées à l'extrême nord. L'édition de ce jour est consacrée au sport scolaire, notamment au jeu FENASCO Ligue A. Nous recevons à cet effet le chef service des activités post- et périscolaires à la délégation régionale des enseignements secondaires de l'extrême nord, M. Assana Adamou. Avec lui, nous reviendrons sur les dernières finales régionales qui ont eu lieu ici à Maroua. Nous scruterons aussi les perspectives d'avenir dont la première échéance est la finale nationale qui aura incessamment lieu en Vomeka dans la région du Sud. La Fédération nationale des sports scolaires en abrégé FENASCO est membre du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Il n'est donc pas superflu de dire, à juste titre d'ailleurs, que la FENASCO cultive les mêmes valeurs que les Jeux olympiques en utilisant le sport comme moyen d'éducation et de promotion des valeurs. Au rang de ces valeurs, on note le fair play, la tolérance, le goût de l'effort, le dépassement de soi, le brassage des peuples, l'acceptation des différences, la citoyenneté nationale et internationale, le brassage interculturel ou encore l'intégration des enjeux environnementaux. Les Jeux FENASCO visent justement à promouvoir l'excellence, à pousser les limites de l'effort physique humain dans le respect des règles et sans tricherie. La structuration de la Fédération nationale des sports scolaires prévoit le regroupement des élèves de l'école primaire dans une ligue dite FENASCO B et ceux du secondaire dans la FENASCO Ligue A. Dans le cadre de ces activités, la FENASCO organise les Jeux scolaires chaque année. Mais à cause de la pandémie à coronavirus, ces Jeux ont été suspendus en 2020 et en 2021. Pour cette année 2022, la compétition tire vers sa fin. En effet, les finales régionales permettant à chaque région de sélectionner ses représentants aux finales nationales sont déjà bouclées. Les différentes délégations n'attendent plus que les finales nationales qui auront lieu cette année dans la région du Sud, plus précisément à Vomeka. Pour le compte de la région de l'extrême nord, les finales régionales FENASCO A se sont déroulées dans une ambiance bon enfant du 13 au 14 avril 2022 ici à Maroua, notre belle cité capitale. Les 6 délégations de la région ont, durant 2 jours, rivalisé d'adresse pour défendre leur honneur et porter leur département à la meilleure place du classement. Pour évaluer le déroulement de ces finales régionales et aussi pour comprendre le fonctionnement de la FENASCO Ligue A ici à l'extrême nord, nous recevons le chef service des activités post- et périscolaires à la délégation régionale des enseignements secondaires de l'extrême nord, M. Assana Adamou. Mais avant de le recevoir, nous allons planter le décor avec ce reportage que nous propose Eugène Kolaoma.
6 départements représentés, 2 ordres d'enseignement pour un total de 1188 athlètes dont 13 disciplines individuelles et collectives sur différents sites de compétition dans la capitale de la plus belle des régions. Tel est le décor de l'édition 2022 des finales régionales des Jeux FENASCO Ligue A qui se sont tenues à Maroua les 13 et 14 avril dernier. Il y a de cela 3 années exactement que les établissements relevant du ministère des enseignements secondaires n'avaient pas connu pareille effervescence. La faute, on le c'est bien à la pandémie à coronavirus venue sonner le glas de cette compétition en 2020. Toutes choses qui font des Jeux FENASCO un cadre dédié à la promotion de l'excellence sportive, mais bien plus, une aventure propice au développement des valeurs olympiques et humaines, comme l'ont souligné dans leurs propos le secrétaire général des services du gouverneur, représentant personnel du numéro 1 de la région. Les jeunes élèves des lycées et collèges, ainsi que les élèves instituteurs des Éniège et Éniette ont donc rivalisé d'adresse lors de ces finales régionales. L'objectif ultime pour chacun d'eux étant de hisser haut les couleurs de leur département respectif et obtenir ainsi un ticket qualificatif pour les finales nationales Vomeka 2022. Dans un esprit de fair play et du respect de l'adversaire, et sous un soleil parfois accablant, les uns et les autres ont donné le meilleur d'eux-mêmes. En fin de compte, dans les rangs des vainqueurs, la joie est à son comble, celle de pouvoir faire partie des représentants de l'extrême nord au final national. La déception, quant à elle, pouvait se lire sur les visages des vaincus.
Moi, je m'appelle Jossi Gigesoussia Fabrice. Bon, je sors du maillot d'Anaï, plus précisément de Yagua. Bon, tout au long, nous avons travaillé pour venir affronter ce match. Ça n'a pas vraiment été facile, mais nous avons bossé dur. La victoire, elle est collective. Et pour les jours à venir, bon, nous allons plus nous travailler davantage pour pouvoir affronter les gars de devant. Le travail reste dur encore. Et je remercie tout le staff de m'avoir vraiment permis de jouer tout ça.
Est-ce que vous pensez que l'extrême nord sera valablement représenté et que vous ramènerez au moins une médaille au tournoi de basketball masculin lors de cette finale nationale?
Bon, je ne peux pas dire avec exactitude que nous allons remporter quand même. Mais le travail reste encore. Nous allons bosser davantage pour pouvoir renforcer notre équipe et espérer gagner et ramener une médaille à Yagua.
Oui, j'ai été bien qualifié pour la finale de Fenasco. Et on était juste à deux à rester. Celui qui restait, c'était juste un élève. Et moi, j'étais l'autre. Et c'est juste ça.
Alors, est-ce que vous pensez que vous aurez les bonnes performances pour remporter une médaille aux Jeux nationaux?
Oui, je pense très bien. Puisque je suis déjà 1m80. Ça veut dire que si j'essaie de faire quelque chose de plus, je pourrais apporter du grand.
Tomber les armes à la main, ils ne manquent toutefois pas, toujours dans cet esprit de fair play, d'exprimer leurs encouragements à leurs adversaires d'hier et ambassadeurs d'aujourd'hui.
C'est Bigel Innocent, département de Mayo-Savant. Nous venons de perdre à la finale du Han. C'était la finale, mais on a fait de notre mieux. Ça n'a pas marché. On félicite seulement le département de Mayo-Kani. Ils vont aller nous représenter à la nationale. Merci.
Moi, je m'appelle Lumigé Gaston Emmanuel Noël. Je représente le Diamaré à la discipline du football. Et cette finale-là, on a perdu. Mais j'espère que les filles qui vont représenter l'extrême nord vont aller gagner au niveau national.
Bien, moi, c'est Gaïe Salabou Ezaï. Je suis cadre de PS au lycée de Makabaï. Bien, mes impressions par rapport à la finale qui s'est jouée. Mes joueurs n'ont pas démérité ceux du collège. C'est vrai, l'équipe en face était plus forte et ils étaient plus près physiquement. Je les félicite parce que tout ce que nous on veut, c'est développer le basketball. Et je pense qu'on va continuer à travailler avec l'équipe qui a perdu. Je les ai dit tout à l'heure de ne pas se décourager. C'est vrai, on a perdu le match, mais on gagne en expérience.
Pensez-vous que l'extrême nord a un représentant valable donc pour pouvoir amener une médaille des Jeux de Vomeka dans le tournoi de basketball masculin?
Bon, je me dis dans le tournoi du basketball, ça va dépendre du coach, parce que l'équipe que j'ai vue qui nous a battu ce matin a des joueurs qui sont techniques et je leur souhaite beaucoup de courage pour la suite et je pense qu'ils vont nous représenter valablement.
Que dire donc des encadreurs et officiels? Réunir des centaines de jeunes pour deux journées intenses de compétition n'est à coup sûr pas chose aisée. Pour pallier à toute éventualité, les petits plans ont été mis dans les grands afin d'assurer un confort minimum à ces athlètes en dépit de conditions climatiques pas toujours évidentes.
Je me nomme Madame Beautek, cadre de SPES, et je suis membre de la commission d'arbitrage.
Alors, quelles sont vos impressions générales quant à la tenue des Jeux cette année, particulièrement dans l'atelier football féminin que vous avez eu l'occasion, n'est-ce pas, de super?
Je crois que les athlètes sont bien comportés, et du football en particulier, et nous comptons remporter dans les finales des Jeux nationaux.
Et pour les finales nationales, déjà, quelle est l'équipe qualifiée en football féminin et pensez-vous que leurs performances seront vraiment de taille?
Pour le football féminin, je crois que c'est l'équipe de Yagua, Mayo d'Anaï, qui s'est qualifiée. Et de leur performance, nous portons un regard particulier sur eux parce qu'elles vont aller plus loin et remporter les finales nationales.
Bonjour, je m'appelle Moussa Adama, infirmier au lycée Bilay. Ça n'a pas été facile malgré la chaleur. Il y a aussi la Croix-Rouge. On s'est divisé en plusieurs sites de jeu. Il y avait le centre d'hospitalisation pour les cas graves qui est l'IMS. Avec tout ça, il y a eu deux cas au niveau de lutte. Un gars qui a eu une blessure ouverte au niveau de paupière gauche, on a suturé. Et puis une autre athlète qui était évanouie suite à la lutte. On l'a réanimé et tout le monde se porte bien.
Comment est-ce que vous avez eu à gérer ces cas d'insolation et autres? Et les cas graves qui ont peut-être pu survenir.
Bon, avec la chaleur, ça n'a pas été facile. Malgré l'équipe médicale et l'équipe de secours qui était en place, si prochainement on pouvait faire à partir de 13h jusqu'à 14h, si toutes les équipes pouvaient faire une pause. Parce que c'était devenu comme un jeu non-stop. Avec la chaleur, plus de 40 degrés, ce n'a pas été facile.
On se réjouit quand même de la façon et laquelle ça se termine.
Oui, ça se termine bien. Nous sommes très heureux que tout est fini. Il n'y a pas eu de cas trop grave. Par la grâce de Dieu, tout est bien.
La région de l'extrême nord connaît donc tous ses représentants au final national des Jeux Finasco Ligue A Vomeka 2022. L'objectif est désormais de retrouver la première place glanée en 2018 et perdue en 2019 aux Jeux de Yaoundé. Placée sous le signe de la promotion de la paix et de l'unité nationale, nul doute que lors de ces Jeux, l'aventure humaine sera davantage mise en avant pour que l'excellence sportive serve à la préservation des valeurs chères à notre pays, le Cameroun. Bonne chance à nos athlètes.
Merci Eugène Kolaoma pour cet élément qui nous permet d'introduire notre invité du jour, le chef service des activités post- et périscolaires à la délégation régionale des enseignements secondaires de l'extrême nord. Monsieur Hassana Adamou, merci d'avoir accepté cette invitation de Radio Serré. Bienvenue sur nos antennes.
Merci Radio Serré. C'est moi aussi qui vais vous remercier pour m'avoir accueilli pour répondre à certaines de vos préoccupations.
Alors, monsieur Adamou, dites-nous, déjà, c'est quoi les Jeux Finasco et quel est en quelques lignes le dispositif réglementaire qui encadre ces Jeux?
Bon, tout d'abord, les Jeux Finasco, c'est ce qui met ensemble les jeunes scolarisés. Maintenant, pour le premier dispositif, c'est d'abord la scolarité. Le deuxième, c'est le fair play. Et le troisième, c'est les critères de morphologie. Bon, le critère de morphologie, normalement, ce ne sont pas tous les élèves qui sont conviés à faire les FENASCO. Il y a une tranche d'âge, c'est-à-dire au maximum, il faut avoir 18 ans pour faire les FENASCO.
Dites-nous, quelle est la différence entre la FENASCO A et la FENASCO B?
Voilà, tout d'abord, la différence entre la FENASCO A et la FENASCO B, c'est que se situe au niveau des enseignements. L'éducation de base, eux, ils porte la FENASCO B, alors que les enseignements secondaires portent la FENASCO A. Donc, quand on parle de FENASCO A, ça concerne directement les enseignements secondaires. Et la FENASCO B concerne directement ceux de l'éducation de base.
Quelles sont les catégories d'établissements concernées par les Jeux FENASCO A? C'est-à-dire les athlètes qui prennent part à ces Jeux viennent de quel type d'établissement?
Les athlètes qui prennent part aux Jeux FENASCO A viennent de tous les établissements secondaires de la région, sans distinction, sans distinction. On a d'une part les énièges et éniètes, d'autre part les CSCTIC et lycées qui font des compétitions entre eux. Le principe, en fait, la seule distinction que nous pouvons mettre ici, c'est la limite d'âge. Si quelqu'un n'a pas l'âge requis, ne doit pas être admis à faire les FENASCO. Et si vous avez l'âge, vous êtes admis. Et si vous êtes aussi compétent, vous êtes admis.
Alors, monsieur Adamou, quels sont les objectifs des Jeux FENASCO?
Bon, premièrement, comme objectif de la FENASCO, c'est d'abord le brassage. Ensuite, c'est de faire épanouir les enfants. Et enfin, c'est de montrer aux enfants qu'ils peuvent se surpasser et être meilleurs dans la discipline qu'ils ont choisie. Voilà en quelque sorte l'objectif que nous nous fixons pour les Jeux FENASCO.
Bon, nous savons que les Jeux FENASCO se déroulent habituellement sur l'ensemble du territoire national, même s'il y a des ligues régionales, d'ailleurs, que vous représentez ici aujourd'hui. Lorsque ces Jeux ont été mis sur pied, quel était l'objectif visé par le gouvernement qui a créé les Jeux FENASCO? Est-ce que c'est uniquement de dire d'accord, on va mettre des jeunes ensemble? Et s'il n'y a pas autre chose derrière tout cela?
Bon, c'était beaucoup plus la sélection des meilleurs. Donc, à la fin, là, on vise l'excellence sportive. Et lorsque un athlète se fait démarquer, on le retient pour le mettre dans une école spécifique ou alors dans un club d'élite.
C'est vrai que je suis un peu perplexe dans la mesure où les Jeux FENASCO A sont portés par la délégation des enseignements secondaires. On sait très bien que l'enseignement secondaire veut dire d'abord promotion de la scolarité, de l'excellence scolaire. Que vient faire le sport là-dedans?
Le sport amène, en fait, amène le développement améliore le développement de l'enfant. Donc un enfant qui ne fait pas de sport, c'est pourquoi on introduit l'éducation physique dans l'enseignement de l'enfant, dans l'éducation de l'enfant. Et pendant l'éducation physique, il y a une partie où on fait la détection des talents. Lorsqu'on détecte un talent dans le cours d'éducation physique, on l'oriente maintenant vers le sport. Et dans le sport, si se fait aussi remarquer, on oriente vers les clubs. Et c'est pourquoi nous avons des meilleurs qui sont souvent regroupés autour d'un club.
Alors revenons-en aux critères de sélection des jeunes sportifs qui prennent part justement au jeu FENASCO A. Quels sont-ils? Sur quelle base est-ce que vous sélectionnez ces jeunes-là qui vont compétir pour le compte de leurs établissements?
Bon, comme je disais tantôt, il y a deux catégories des établissements qui font les FENASCO au niveau des enseignements secondaires, au niveau des ZENIES et ENIET. La sélection n'est pas trop rigide. On ne regarde pas le gabarit, l'âge, tout ça. On ne regarde que les documents. Si l'enfant est scolarisé, il fait partie de ceux qui peuvent compétir. Mais par contre, lorsque nous allons du côté des lycées et collèges, ici, on regarde d'abord si l'enfant est scolarisé. Ensuite, on voit si l'enfant a moins de 18 ans. Et enfin, on voit si la dentition est inférieure à 31 dents.
Concrètement, comment se passe cette inspection-là? Est-ce que c'est à travers des examens médicaux ou alors c'est des visus que vous parvenez à faire la sélection?
Bon, dans presque toutes les délégations départementales, nous avons les infirmiers ou les médecins. Nous avons ici à la délégation régionale un médecin. Donc, il instruit donc, au niveau départemental une manière de compter le comptage des dents. Donc, avant de compétir, on compte les dents. Ou alors, après la compétition, pour que l'enfant soit sélectionné, on doit s'assurer que sa dentition soit inférieure à 31 dents.
Si j'ai bien compris, les jeunes qui sont sélectionnés dans les départements pour prendre part au jeu FENASCO, il y a un fichier où on les répertorie, il y a des licences?
Oui, il y a des licences. Les licences, nous passons les commandes au niveau de Yaoundé à partir de décembre. Au niveau de début janvier, les licences arrivent et on les distille dans les différents départements. Et pour prendre part d'abord aux différentes compétitions qui sont faites dans les établissements, les élèves doivent avoir leur licence. Et quand l'élève n'a pas sa licence, il est inutile pour l'élève de continuer sa compétition. Donc jusqu'ici, quand ils viennent, c'est déjà distillé, les enfants ont les licences déjà en bonne et due forme.
Alors dites-nous, M. Adamou, quelles sont les disciplines sportives concernées par ces jeux FENASCO A?
Au niveau de FENASCO, nous avons retenu 14 disciplines. Nous pouvons les citer comme, entre autres, le football, le handball, le volleyball, le basket, l'athlétisme, la gymnastique, le judo, la lutte, le tennis d'étape, le tennis, à l'époque appelé encore lawn tennis, qui est maintenant redevenu tennis, le badminton, le bras de fer et l'haltérophilie.
Vous avez parlé de 14 disciplines, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas. Quels sont les critères sur la base desquels vous avez sélectionné ces 14 disciplines qui font partie justement de votre compétition de jeu FENASCO?
Bon, ce n'est pas nous qui les avons sélectionnés, c'est le bureau national qui nous a imposé ces disciplines. Et parmi ces disciplines, il y a les nouvelles disciplines qui sont venues cette année comme l'haltérophilie et le tennis. Donc les autres, on les compétissait avant, mais cette année spécifiquement, nous avons eu le tennis et l'haltérophilie qui se sont introduites.
Dans notre région, on contient spécifiquement la Ligue régionale FENASCO A de l'extrême nord. Est-ce que toutes ces 14 disciplines ont pourvu des compétiteurs?
Toutes les 14 disciplines ont eu des compétiteurs et toutes les 14 disciplines ont eu des meilleurs qui doivent normalement nous représenter au final national à Vomeka.
Alors, je voudrais comprendre, ces 14 disciplines, vous avez dit que toutes ont des compétiteurs. En tout et pour tout, dans le cadre des jeux FENASCO pour l'année 2022, combien de jeunes, combien d'athlètes y ont pris part?
Lorsqu'une délégation se déplace, nous avons 131 personnes. Et dans les 131 personnes, il y a tout ce qui est bureau, les deux présidents, c'est-à-dire le délégué départemental des enseignements secondaires qui est président, le délégué départemental des sports qui est vice-président, un secrétaire général, un trésorier, un coordinateur technique et un médecin. Hormis ceux de l'équipe administrative, là, le reste c'est les athlètes et les encadreurs.
Alors vous avez dit pour chacune des délégations il y a 131 personnes. Si on retire le bureau que vous avez listé, on peut dire qu'on est dans environ 120 personnes par délégation. Ça veut dire que 120 fois 6 départements, c'est bien ça?
Oui, c'est ça effectivement. C'est ça, effectivement. Mais il y a certaines délégations qui sont venues avec quelques équipes manquantes, comme celle de Kousseri. Mais nous ne leur tirons pas rigueur. Ils sont en train de déplorer le fait que le coût de déplacement de ces athlètes, parce qu'un athlète que tu prends de Kousseri pour Maroua, en aller-retour, te coûte 12 000. Donc, s'ils font venir toute la délégation en aller-retour, ça va tellement leur coûter. Alors, ils n'ont pas eu l'aide des municipalités.
Justement, lorsque vous parlez de difficultés financières rencontrées par la délégation de Kousseri, comment sont financés ces jeux FENASCO déjà au niveau départemental? Est-ce que ce sont les athlètes qui contribuent? Est-ce que ce sont les parents qui mettent la main à la poche? Ou alors tout est pris en charge déjà au niveau de votre ministère? Expliquez-nous comment sont financés les jeux FENASCO au niveau départemental d'abord, ensuite au niveau régional.
Au niveau départemental, il y a deux manières de financer les FENASCO. Premièrement, il y a les parents. Les parents financent les FENASCO à travers la scolarité qu'ils payent aux enfants. Dès que tu payes la scolarité, il y a une rubrique qu'on appelle quote-part FENASCO qui est reversée directement à la délégation départementale. Et cette quote-part associée donc pour 2, 3, 4 et 1000 enfants, ça donne déjà un costaud montant pour pouvoir faire passer les finales départementales. D'autre part, il y a les collectivités qui aussi aident, mais cette année, elles ont refusé d'aider. On ne sait pas pourquoi, parce que quand on indexe tous les délégués départementaux, ils nous disent que les collectivités n'ont pas pu les aider. Soit disant que le conseil régional devrait normalement les aider à travers la délégation régionale, mais nous n'avons rien eu pour pouvoir les aider eux aussi. Mais parlant de financement aussi de la délégation régionale des enseignements secondaires, c'est dans le même réseau, nous avons 6 délégations départementales. Et quand les parents payent au niveau des établissements, il y a ce qu'on appelle, comme je disais tout à l'heure, les quotes-parts FENASCO qui sont remontés directement pour la délégation régionale. Parce que chaque délégation a sa quote-part. Il y a la quote-part de la délégation départementale, il y a la quote-part de la délégation régionale, il y a la quote-part du ministère. Donc, chacun entre en possession de sa quote-part et organise ses finales à travers ce qu'elle a reçu. Nous avons tendu la main à plusieurs personnalités, comme le conseil régional, le maire de la ville, les trois maires de la ville de Maroua, mais aucune collectivité n'a pu financer la FENASCO, excepté le conseil régional qui a pu nous financer à hauteur de 500 000 francs. Et à Freeland Fair Bank. Voilà ceux qui ont pu appuyer la FENASCO.
Alors dites-nous, comment sont organisées justement ces jeux FENASCO A? Quelles sont les différentes étapes qui ont abouti au final régional qui ont eu lieu récemment ici dans la ville de Maroua?
Bon, surtout pour les FENASCO Ligue A, les compétitions commencent à partir des différents établissements. Lorsqu'on est dans un établissement, comme je disais tout à l'heure, vous passez votre cours. C'est à ce moment qu'on détecte donc qui est meilleur et on constitue donc une équipe. L'équipe maintenant est en train de faire, d'abord au niveau des différentes compétitions qu'on appelle interclasses. Il y a compétition qui a eu lieu dans les différents établissements. Et après les interclasses, maintenant on sort des interclasses, on fait inter-établissement. Après inter-établissement, il y a aussi les différentes zones. On peut faire des compétitions au niveau des zones. Maintenant, lorsqu'on finit des zones, on va maintenant au niveau de l'arrondissement, donc des compétitions au niveau des arrondissements. Quand on est meilleur d'un point, on se retrouve à l'autre point. Maintenant, au niveau des finales d'arrondissement, quand on est meilleur, on se retrouve aussi au niveau des finales départementales. Maintenant, comme nous avons reçu cette année la FENASCO régionale, ce ne sont que les meilleurs des différentes délégations départementales qui sont venus représenter les différentes délégations ici. Et ces meilleurs aussi ont été sélectionné pour pouvoir représenter maintenant la région à son tour au niveau de Vomeka, au niveau national.
Mm-hmm. En termes de chronogramme, de calendrier d'activité, vous avez parlé des interclasses. D'abord, il y a des cours de PS que vous avez signifiés au départ qui permet de sélectionner les meilleurs. Mm-hmm. Ensuite, il y a des interclasses. Après, inter-établissement. Bref, il y a un long processus. En termes de calendrier, de chronogramme d'activité, sur quelle période de l'année ces activités-là commencent, à partir de quand pour finir quand?
Bon, généralement, d'autres commencent en fin du mois de novembre. Et dans les textes, normalement, il est conseillé de commencer à la rentrée du deuxième trimestre, c'est-à-dire au mois de janvier, pour pouvoir enchaîner les différentes compétitions. Lorsque vous commencez en janvier avec les interclasses, ça se succède sans que les enfants n'aient de refroidissement au niveau des jambes, jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau régional et au niveau national.
On a aussi remarqué qu'habituellement, les finales régionales et même nationales ont souvent lieu au cours des congés de Pâques. Et c'est systématiquement comme ça ou alors quels sont les textes qui encadrent cela?
C'est systématiquement comme ça. La FENASCO nationale nous donne les périodes de compétition avant qu'on ne parte. En fait, dès qu'on fixe le calendrier scolaire, les périodes de FENASCO sont déjà connues. Donc, au niveau des congés de Pâques, c'est la période qui est indiquée pour pouvoir faire les finales nationales. Et nous programmons donc nos finales régionales en fonction des finales nationales. Donc, on décale pour pouvoir réussir nos finales afin d'aller normalement aux finales nationales dans les termes.
Alors, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez déjà amorcé la réponse à cette question que je m'avais vous posée. Quels sont les différents acteurs mobilisés pour l'organisation des CG au niveau régional?
Pour les finales régionales, en fait pour toutes les FENASCO, nous avons comme acteurs mobilisés, premièrement c'est les athlètes que nous avons d'abord. Ensuite viennent les officiels techniques. Troisièmement, on a l'équipe médicale, les médias, la sécurité. Et quatrièmement, nous avons l'équipe de restauration parce que sans elle, les élèves, les athlètes n'auront pas de force pour pouvoir compétir. Donc il faut la nourriture pour pouvoir donner un peu de l'énergie aux compétiteurs.
Tout à l'heure, vous parliez de 131 personnes par délégation fois 6. Ça fait quand même presque 800 personnes qui viennent ici à Maroua. Comment est-ce que vous assurez leur logement?
Avant qu'ils ne viennent, il y a des dispositions qui sont prises. Nous sortons des commissions. Et dans la commission, il y a une commission qu'on appelle la commission d'accueil, d'hébergement et de restauration, d'où je suis le président. Et lorsque nous sortons la commission, il y a des orientations qui sont prises et nous fonctionnons avec les différents surveillants généraux qui sont dans les établissements. Nous avons arrêté 3 sites d'hébergement et 3 sites de restauration. Les hébergements, nous avons le lycée bilingue qui a pu héberger les filles, toutes les filles des lycées et collèges. Le lycée classique a hébergé tous les garçons venant des différents départements, des lycées et collèges. Par contre, dans les Nièges, bilingue a donc hébergé les élèves maîtres et maîtresses venant des différents départements. Et partout là où il y a les sites d'hébergement, il y a les sites de restauration.
Alors, tout à l'heure, vous évoquiez aussi les critères de sélection des jeunes pour pouvoir garantir justement l'équité et le fair play. Nous savons aussi que le phénomène de mercenariat est souvent pointé du doigt dans les milieux sportifs jeunes, surtout en ce qui concerne les FENASCO. Quelles sont les mesures que vous prenez pour contrecarrer cette fraude?
Le ministère, à travers la FENASCO nationale, nous a permis de limiter beaucoup plus ce phénomène de mercenariat. Lorsque nous avons conçu nos différentes commissions, nous n'avons pas oublié la commission de morphologie. Et le rôle de la commission de morphologie était de faire en sorte qu'il y ait le respect des critères édictés par la nationale. Comme je disais tantôt, 18 ans d'abord dans les documents, on voit d'abord la documentation, on voit la morphologie de l'enfant, on compte les dents. Et tout ceci, si quelqu'un est à l'écart, on le met aussi à l'écart. Si quelqu'un est dans les normes, il est gardé.
Cette année, pour ces jeux, est-ce qu'il vous est arrivé de détecter justement des cas de fraude que vous avez sanctionnés?
Oui, nous avons eu quelques cas de fraude. Justement, au niveau de la morphologie, ils ont été détectés parce qu'ils avaient une manière de faire. Par exemple, moi, j'étais présent lorsqu'ils étaient en train de passer une délégation. Ils ont pris la documentation d'une équipe. Pendant qu'ils tiennent la carte de scolaire d'un enfant, on t'appelle. Tu viens, tu te présentes. Dis-nous, tu es né quand et où? Maintenant, si ce que tu dis et ce qui est sur les papiers sont différents, et ils te mettent directement de côté. On trouve que tu es tenté de faire du faux. Et on te met de côté. Et c'est comme ça qu'ils ont procédé. Et en plus, lorsque tu apparais petit, alors que tu as la dentition au plus de 31 dents, on te met aussi de côté. Parce que normalement, l'apparence, là, on pouvait négliger. Mais lorsque tu as plus de 31 dents, on te met à l'écart. Tu ne fais plus partie.
L'autre facette du mercenariat consiste particulièrement à faire recours aux jeunes qui ont des talents sportifs avérés, mais qui ne sont pas scolarisés. Comment est-ce que vous contournez cela?
Ici aussi, il y a eu un cas comme ça qui a été détecté du côté du gymnase. Quand on faisait la PZ du côté de la lutte, tous nos officiels techniques étaient déjà avertis. La délégation, je crois que c'est la délégation du Mayo Dana qui est venue avec des doublons. Et des vraies personnes et des fausses personnes. Quand on appelle une personne, elle vient, elle se présente. C'est-à-dire son visage là, c'est normalement ce qui est sur le papier. Mais maintenant, quand il faut maintenant passer à la PZ, c'est une autre personne qui apparaît. Et si tu ne prêtes pas attention, c'est comme ça que ça glisse et ça passe. Donc nos officiels techniques et nos encadreurs qui étaient donc là-bas ont pu détecter du côté du Mayo Danay certaines personnes qui étaient venues donc pour pouvoir se faire peser à la place de d'autres personnes. Et si ça passait, donc le vrai devrait donc compétir. Le vrai qui est au-delà du poids devrait donc compétir.
Donc l'idée dans ce cas précis que vous racontez est de déjouer les catégories, puisqu'on les classe, on classe les combats en fonction du poids.
Justement, c'était une manière de déjouer les catégories. Parce que normalement, quand tu compétis avec quelqu'un que tu dépasses en catégorie, il y a de fortes chances que tu gagnes cette personne. Ouais. Mmh. Tu es plus lourd et tu seras plus expérimenté.
Alors, comment est garantie la promotion du mérite et du fair play par les jeux FENASCO A?
Bon, le mérite, nous pouvons dire ici que tous les athlètes qui viennent pour les compétitions sont soumis à des tests au niveau des compétitions, au niveau des combats, au niveau des courses. Et maintenant, ceux dont nous plaçons pour pouvoir tester ces athlètes-là, c'est des officiels qui sont impartials et qui n'ont pas de parti pris par rapport à une délégation ou alors par rapport à une tierce personne. Donc, eux, ils font leur travail et rien que leur travail. Et à la fin, on juge donc le meilleur.
Mais comment est-ce que vous pouvez garantir la neutralité et l'impartialité d'un officiel? Parce que c'est aussi un phénomène qu'on pointe souvent du doigt. Il y a des officiels qui parfois ont tendance à favoriser un camp au détriment de l'autre.
Je prends par exemple le cas de l'athlétisme où on fait appel aux officiels techniques venant des six départements. Et lorsque les officiels techniques venant des six départements sont disposés à juger un enfant, que ce soit l'enfant venant de ton département, tu es obligé de juger parce que les autres sont à côté de toi, tu es obligé de bien juger. Si tu juges mal, les autres te diront que non, ce que tu as fait n'est pas bien fait. Et ils sont donc contraints de bien juger pour que les performances réelles ressortent.
Alors, en termes de bilan, quel bilan est-ce qu'on peut retenir de ces Jeux FENASCO, notamment des finales régionales qui ont eu lieu ici à Maroua, en termes de classement, de nombre de médailles par département?
Bon, que je ne dispose pas très bien des nombres de médailles par département, mais par rapport au classement, le Diamaré s'en est tiré avec plusieurs médailles par rapport à d'autres délégations. C'est-à-dire la délégation suivante, c'était le Mayo Danay et le Gonéchari a arrêté la fin du classement. Ouais.
Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de cette édition 2022 des Jeux FENASCO A?
Bon, nous avons rencontré pour cette FENASCO A plusieurs difficultés. Premièrement, pour les enfants, pour les athlètes, ils sont arrivés dans une période caniculaire où c'était vraiment le soleil, il faisait très chaud et c'était difficile pour eux de compétir. Donc à une certaine heure, on arrêtait souvent les compétitions pour leur permettre de respirer. Même la finale s'est jouée à plusieurs temps. Donc on joue, on arrête pour qu'ils respirent un peu avant de relancer. Deuxièmement, c'était le Ramadan. C'est une période où la majorité de nos athlètes, ce sont les musulmans. Surtout ceux venant du Kosseri, ceux venant du Mao Sava, c'était purement des musulmans. Et normalement, nos viviers, nos bons athlètes, que ce soit les volleyeurs, l'athlétisme, les handballeurs, sortent du Logonéchari. Et cette année, parce qu'il y a eu, le Ramadan et ils ne pouvaient pas faire des compétitions, et faire comme des autres, c'est-à-dire boire de l'eau, manger, sachant qu'à la maison, on sait qu'ils sont en train de gêner. Ils sont venus, ils ont gêné, ils ont fait les compétitions, c'est arrivé là où ça s'est arrivé. Et comme troisième difficulté, c'est au niveau de la restauration. Les athlètes n'arrivent pas à supporter, à se tenir en rang, parce que normalement, nous avons fait les tickets pour la restauration. Le ticket, quand tu as un ticket, tu viens, tu trouves que quelqu'un est placé avant toi, tu es normalement obligé de venir te tenir après lui pour pouvoir attendre qu'il se serve et puis pour passer te servir. Maintenant, les athlètes, eux, ils ont cette mentalité où quand ils viennent, ils veulent à tout prix manger là. C'est pourquoi quand j'arrive souvent à la cuisine, je trouve que les athlètes sont tentés d'envahir les restauratrices et c'est pas bon. Ça nous a fait une mauvaise impression. Mm-hmm.
Alors, les finales régionales sont derrière nous. Quelles sont les perspectives pour nos jeunes athlètes, notamment ceux qui ont excellé au cours de ces finales?
Voilà, ceux qui ont excellé au cours de ces finales, ce sont ceux-là que nous avons retenus. Et ce sont ceux-là que nous avons donc pris les noms, les coordonnées, pour qu'ils nous représentent valablement au final national à Vomeka. Les finales nationales auront lieu selon ce qu'on nous a dit, les dates ne sont pas encore fixées. Lorsque les dates seront fixées, on va les rappeler pour qu'on se mette en route.
Alors ces jeunes-là qui ont été retenus justement pour représenter la région de l'extrême nord au final national, environ c'est combien de personnes, combien de jeunes?
Bon, comme je disais, hormis les encadreurs, hormis l'équipe technique, ils peuvent être dans les 191 ou les 14 disciplines, oui.
Alors les Jeux FENASCO Ligue A au niveau régional sont bouclés. Pour la prochaine édition, celle 2023, quelles sont vos ambitions?
Bon, pour la prochaine édition, il sera question qu'on relève les défis par rapport aux différents problèmes que nous avons rencontrés cette année. On va essayer de tenir des réunions et des réunions, et les feedbacks seront renvoyés aux différents départements pour qu'ils prennent part de ces différentes difficultés. Et parlant de la canicule, on n'y peut rien, c'est la volonté de Dieu. Comme on fixe souvent les Jeux FENASCO, les périodes des congés de Pâques, on ne peut pas déplacer. S'il fait chaud, on est obligé de faire avec. S'il fait froid, on est obligé de faire avec. Voilà en quelque sorte ce que on prétend faire pour la prochaine année.
Alors, pour sortir définitivement de cette émission, de cet entretien, d'après vous, en quoi est-ce que les Jeux FENASCO contribuent-ils au développement du mouvement sportif dans notre région?
Bon, je dirais que les Jeux FENASCO A, c'est un champ où viennent cultiver tous les clubs d'élite de l'extrême nord pour pouvoir bien s'exprimer à l'échiquier national. On rencontre nos athlètes dans plusieurs clubs d'élite comme à Yaoundé ou même ceux dont les âges ont excédé 18 ans. Donc c'est un vivier où viennent pêcher les meilleurs pour pouvoir les mettre dans les clubs ou alors dans les bonnes positions pour pouvoir exceller dans la vie.
Est-ce que vous n'avez pas rencontré le phénomène de parents réticents, c'est-à-dire qui ont des jeunes enfants qui sont performants, qui ont des dispositions athlétiques, mais qui les empêchent de s'exprimer, qui empêchent que ceux-ci prennent part aux compétitions?
Bon, nous ici à la délégation régionale, on ne rencontre pas. Ceux qui puissent se rencontrer, c'est ceux qui sont au niveau des différents départements même. Parce qu'eux, ils sont en contact avec les établissements. Et maintenant, ils sont obligés d'entreprendre des négociations avec les différents parents qui, de fois, leur confient les enfants. Parce que nous nous sommes rendus dans différentes FENASCO nationales avec certains encadreurs qui marchaient avec des petits-enfants. Ils étaient obligés parce qu'ils disaient que ces enfants m'ont été confiés. Si maintenant il arrive quelque chose à ses enfants, c'est moi qu'on va indexer. Donc, il y a des partenariats qui tissent avec des parents pour pouvoir bien garder les enfants. Auquel cas, prochainement, les enfants ne seront pas laissés à la merci des encadreurs.
Monsieur Assana Adamou, chef service des activités post- et périscolaires de la délégation régionale d'enseignement secondaire de l'extrême nord, par ailleurs trésorier de la Ligue FENASCO A, merci d'avoir répondu à cette sollicitation de Radio Osséré.
C'est moi qui vous remercie. Radio Osséré, pour m'avoir permis de m'exprimer et de répondre à certaines de vos préoccupations.
Fidèle auditeur de la 105.5 MHz Volcan FM, c'est ici que nous refermons cette autre production de Osséré Infosport consacrée à l'édition 2022 des finales régionales FENASCO Ligue A de l'extrême nord. Nous tenons à remercier Monsieur le délégué régional des enseignements secondaires de l'extrême nord, par ailleurs président de la Ligue régionale FENASCO A, qui a bien voulu mettre à notre disposition son collaborateur pour répondre à nos questions. Mais avant de vous quitter, nous vous livrons avec précision le classement définitif à l'issue de ces finales régionales Ligue A édition 2022. À la première place, nous avons le département du Diamaré qui totalise 44 médailles en or, 33 en argent et 15 en bronze. À la deuxième place, nous avons le Mayo Danaï qui totalise 28 médailles en or, 15 en argent et 8 en bronze. Troisième place, Mayo Kani, 7 médailles en or, 12 en argent et 20 en bronze. Quatrième place, Mayo Sava, 7 médailles en or, 12 en argent et 20 en bronze. Cinquième place, Mayo Tanaga, qui a un total de 4 médailles en or, 8 en argent et 12 en bronze. Et enfin, à la sixième place, le Logon de Chari, qui a 3 médailles en or, 6 en argent, 12 en bronze. Comme d'habitude, l'équipe à votre service était constituée de Marcino à la technique et David Bayan à la coordination. Au micro de présentation, je suis Steve Febi. Donnons-nous rendez-vous dans une semaine, même jour, même heure, pour une autre édition de Haut-Série Info Sport au service du développement de la région par le sport. D'ici là, retenez qu'un esprit sain, c'est bien, mais un esprit sain dans un corps sain, c'est mieux. À la semaine prochaine.